France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 28 avril. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, mieux repérer les nouveaux radicalisés, mieux suivre les condamnés à leur sortie de prison. Ce sont les deux axes du projet de loi antiterroriste présenté ce matin au Conseil des ministres. Le détail du texte dès le début du journal. Et Gérald Darmanin, je vais y arriver ce matin, invité à 8h20 du grand entretien. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Les autres titres, Agnès.
Faut-il élargir la vaccination aux 50-55 ans? Plusieurs médecins le demandent, nous entendrons l'un d'entre eux. Alcool, tabac, insomnie, prise de poids, inquiétude sur la santé des petits patrons en temps de crise. Après 100 ans à la Maison Blanche, 100 jours, pardon, 100 jours à la Maison Blanche, Joe Biden tombe le masque. Y aura-t-il du miel français cet été? Vols et dégradations se multiplient dans les ruches. Et puis, quelle récolte ce soir pour le PSG face à Manchester City, demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Et attention, attention à 7h50, votre invité Léa.
Amis auditeurs, on vous a fait découvrir il y a quelques semaine DJ Snake, le DJ français le plus écouté dans le monde. Et bien ce matin, une autre méga gigastar de la musique, le rappeur Damso, qui vient nous révéler en exclusivité une nouvelle qui va mettre ses fans en transe. Damso, en direct et en studio à 7h50 sur Inter.
À tout à l'heure Léa.
France Inter.
Un nouveau projet de loi donc pour lutter contre le terrorisme, 5 jours après l'attentat de Rambouillet. Un hasard du calendrier, affirme le ministère de l'Intérieur, qui dit travailler sur ce texte depuis plusieurs mois. Texte présenté donc en Conseil des ministres ce matin. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
19 articles pour mieux détecter les personnes en phase de radicalisation, mais aussi pour assurer un meilleur suivi des détenus condamnés pour terrorisme et qui arrivent en fin de peine.
Un dispositif qui se veut moins attentatoire aux libertés individuelles que le texte de loi déjà proposé à l'été dernier par des députés La République En Marche et retoqué par le Conseil constitutionnel. Cette fois, plus de bracelets électroniques pour les terroristes une fois leur peine purgée, mais la possibilité, pendant 5 ans maximum, de leur imposer un domicile dans un lieu donné, de répondre aux convocations du juge d'application des peines ou encore de suivre un programme de prise en charge sociale, éducatif ou psychologique. D'ici 2023, une centaine de détenus pour terrorisme doivent sortir de prison, mais seuls ceux condamnés à 5 ans de détention minimum et présentant une dangerosité particulièrement élevée entreront dans ce dispositif. Dangerosité qui sera évaluée en fin de peine pendant 6 semaines passées dans un service spécialisé.
Et puis Charlotte, il y aura un deuxième volet de cette loi qui sera présenté en Conseil des ministres dans 2 semaines et qui encadre cette fois les outils des services de renseignement.
Avec notamment la technique des algorithmes de recherche qui permet de détecter des personnes qui ne sont pas dans les radars des services antiterroristes lorsqu'elles entrent en contact via Internet avec quelqu'un en zone irako-syrienne par exemple. 3 algorithmes déjà utilisés depuis 2017 ont d'ailleurs permis de détecter des personnes suspectes. La technique doit donc être pérennisée dans ce nouveau projet de loi dont un des volets vise ainsi à s'adapter aux évolutions technologiques, à l'utilisation massive par les terroristes de moyens de communication chiffrés par exemple. Le projet de loi répond en portant à 2 mois, la durée autorisée pour recueillir les données informatiques. Toutefois, le gouvernement assure qu'il n'y aura pas d'entrave aux libertés individuelles, notamment grâce à de strictes conditions d'utilisation de ces données.
Merci Charlotte Piret. Et à noter que le Premier ministre tiendra une conférence de presse aujourd'hui à 13h sur ce projet de loi et sur l'état d'urgence sanitaire en vigueur en France jusqu'au 1er juin. Un conseil de défense sanitaire, le 59e, aura lieu ce matin avant le Conseil des ministres, avec une question sur la campagne de vaccination. 14,5 millions de doses ont été injectées. Mais pour Jean-Paul Stahl, professeur de maladies infectieuses et tropicales au CHU de Grenoble, il faut aller plus vite et profiter notamment de l'arrivée de 7,5 millions de doses supplémentaires de Pfizer dans les prochaines semaines pour ouvrir la vaccination.
On s'obstine à faire des catégories alors que, ma foi, les catégories ne sont pas vaccinées, ne veulent pas être vaccinées, tout au moins certaines personnes dans ces catégories, et qu'il y en a d'autres qui sont en dehors de ces catégories qui souhaiteraient être vaccinées. Donc ça devient absurde de refuser des vaccinations alors qu'il y a des vaccins disponibles. Je pense qu'on est vraiment dans la lourdeur administrative dans toute sa caricature. C'est une stratégie qui se tient debout à partir du moment où on a peu de vaccins et où effectivement il faut restreindre pour que garantir à ceux qui en ont le plus besoin garantir le fait d'être vaccinés. Mais à partir du moment où on a des vaccins en surplus, je vois pas pourquoi on restreint.
Un propos recueilli par Julien Langlais. Sur le plan économique, c'est aujourd'hui que la France présente à Bruxelles les détails de son plan de relance, étape indispensable pour obtenir 40 milliards d'euros de fonds européens sur les 100 milliards que Bercy a programmés. Détail du plan dans le journal de 8 heures. Des fonds qui pourront en partie bénéficier aux entreprises. Une étude publiée par Malakoff Humanis s'est intéressée à la santé des patrons des petites et moyennes entreprises. Troubles du sommeil, consommation d'alcool et de tabac, prise de poids, certains indicateurs Claire Checaglini, ne sont pas bons.
Plus de 4 dirigeants sur 5 se déclarent en bonne ou très bonne santé. Et pourtant, dans le détail, certains indicateurs sont alarmants. Un cinquième de ces chefs d'entreprise a augmenté ses pratiques addictives, comme l'explique Anne-Sophie Godon, directrice des services de Malakoff Humanis.
On a presque un tiers des dirigeants qui fument, et c'est presque 10 points de plus qu'en 2016. Et puis, les dirigeants sont plus nombreux aussi à consommer de l'alcool tous les jours ou presque, donc plus nombreux notamment que les salariés. Là aussi, on a presque 10 points d'écart.
Tendance mesurée aussi à l'association APESA qui propose une aide psychologique aux entrepreneurs en difficulté. Son cofondateur, Jean-Luc Douillard, psychologue.
Les troubles du sommeil ont flambé, les troubles alimentaires ont flambé, les phobies, les TOC, enfin voilà, tous les comportements un peu obsessionnels, un peu compulsifs. La fréquentation sur les réseaux sociaux et donc les addictions aux écrans ont flambé. Il y a un peu plus de risque alcool, il y a un peu plus de risque cannabis.
Mais la fragilisation de ces dirigeants les a aussi amenés à changer de regard sur les salariés. Il y a 5 ans, 62% d'entre eux estimaient que la bonne santé de leurs employés était étroitement liée aux performances de l'entreprise. Ils sont désormais 78% à en être convaincus.
Et pour les étudiants, l'heure des partiels approche. Ceux qui devaient se tenir en avril ont été repoussés à début mai en raison du confinement. Si chaque université peut s'organiser comme elle le souhaite, la plupart devraient opter pour des examens en présentiel. Sonia Princé.
Plus de 50% des examens s'étaient déroulés en présentiel au premier semestre. Ce sera davantage pour cette seconde session. Guillaume Gelet explique pourquoi. Il est vice-président de la CPU, la conférence des présidents d'université.
Bien souvent, dans les années terminales de diplôme, souvent en troisième année de licence ou en deuxième année de master, les équipes pédagogiques privilégient quand même le présentiel. Tout simplement parce que un diplôme, c'est plusieurs années d'études et il est important donc pour nos universités de garantir la qualité des diplômes que nous délivrons. Et quand on a affaire à des grandes cohortes d'étudiants, comme c'est le cas dans de nombreuses licences quand même, il y a des épreuves qui sont beaucoup plus faciles à organiser et qui donnent beaucoup plus de garanties en fait sur la qualité de l'évaluation si elles sont faites en présentiel.
Mais cette organisation met en difficulté les étudiants qui ont rendu leur logement, comme le signale Paul Maillot, président de la FAGE, première fédération étudiante.
Aujourd'hui, et c'est la grande limite du retour en présentiel, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui ont dû rentrer chez eux, chez leurs parents, du fait de la situation sociale qui a été dégradée avec la crise sanitaire. Et de fait, ils se retrouvent sur des distances géographiques qui sont assez loin, en réalité, de leur lieu d'études. Et où ça peut être compliqué financièrement de revenir passer des examens en présentiel sur le second semestre.
Les étudiants qui auraient des difficultés pour revenir en présentiel peuvent demander de l'aide à leur CROUS ou à leur université.
Et pour en savoir plus sur l'organisation de ces partiels, rendez-vous sur franceinter.fr.
Il est 7h08 et c'est aussi l'heure, Agnès, d'un premier bilan pour Joe Biden.
Avec un premier grand discours de politique générale ce soir devant le Congrès à la veille de son 100e jour à la Maison-Blanche. Joe Biden, dont le premier objectif, vacciner la population américaine contre le Covid, est en passe d'être atteint. Des Américains vaccinés qui peuvent désormais sortir à visage découvert, s'est félicité le président américain.
C'est très clair. Si vous êtes vacciné, vous pouvez faire plus de choses en sécurité, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc pour ceux qui n'ont pas encore été vaccinés, et notamment les plus jeunes, peut-être pensez-vous que vous n'en avez pas besoin. Mais c'est une très bonne raison d'aller se faire vacciner maintenant. Maintenant, oui, le vaccin peut vous sauver la vie, mais aussi celle des gens qui vous entourent. Le vaccin, c'est aussi ce qui nous rapproche d'un retour à la normale, d'une vie comme avant. Se réunir avec des amis, aller au parc faire un pique-nique, sans porter de masque. Donc, aller faire cette piqûre, ça n'a jamais été aussi simple de le faire.
Propos recueillis et traduits par Grégory Phillips. De nouvelles attaques meurtrières au Burkina après l'exécution lundi de 3 journalistes, 2 Espagnols et un Irlandais dans l'est du pays. Des hommes armés ont attaqué des villages dans le nord du pays, cette fois à quelques kilomètres de la frontière avec le Niger. Une 15aine de personnes auraient été tuées. Retour en France avec la colère et l'inquiétude des apiculteurs. En cette période de l'année où les abeilles sont de retour, les vols et les dégradations se multiplient, laissant craindre une baisse de la production de miel. Timothée Rouvier a rencontré des apiculteurs dont le Doubs est le territoire de Belfort. Reportage.
Pour Tanguy Collet, les dégradations de ruches, c'est la goutte de trop. Après les vols il y a 2 ans et 17 ruches dégradées l'an dernier, ces abeilles ont de nouveau été attaquées cette année. Il a déjà perdu la moitié de sa production au parc Japy à Audincourt.
C'est toujours un peu énervant, on arrive à toute vitesse, on regarde et puis on trouve ces abeilles mortes au bord du chemin. Donc c'est plutôt frustrant et énervant. Elles sont mortes du froid dès qu'on ouvre finalement le toit de la ruche et que ça gèle, elles ont beaucoup trop froid donc tout meurt et voilà. Le vol c'est énervant mais c'est entre guillemets presque un peu moins pire que les dégradations parce qu'on se dit qu'elles ont été volées avec un peu de chance pour être quand même en vie ailleurs. La dégradation c'est le pire en fait, on sait que c'est gratuit.
Pour les protéger, l'apiculteur doit installer ses ruches dans des maisonnettes en bois cadenassées. D'autres ont opté pour les grands moyens avec l'installation de caméras de surveillance et de traceurs GPS. Thierry Brocard, apiculteur à Chèvremont, a acheté 8 de ces dispositifs.
Traceur GPS, donc ça se glisse dans la ruche et dès qu'on va toucher la ruche, elle va envoyer un SMS. Ce SMS, on va le recevoir sur un portable. Côté caméra ou éventuellement appareil photo. Alors ça, c'est tout bête. Si quelqu'un passe dans le champ des ruches, eh bien forcément, ça prend des photos.
En plus de la perte affective, c'est aussi une perte financière pour chaque apiculteur. Chaque ruche volée ou dégradée coûte jusqu'à 600 euros.
Timothée Rouvière de France Bleu Besançon. Le blocage de la fonderie de Bretagne se poursuit à Caudan dans le Morbihan. Mais les 7 membres de la direction retenus dans l'entreprise depuis hier matin ont été libérés dans la soirée. Nous reviendrons dans le journal de 7h30. Après le Barça et le Bayern, le PSG va-t-il accrocher à son tableau Manchester City? Demi-finale allée de la Ligue des Champions ce soir au Parc des Princes. Les Parisiens sont en pleine confiance à l'image de la star brésilienne Neymar qui vise une deuxième finale en 2 ans. Pour décrocher cette fois la première Ligue des champions du PSG. Alexandre Vaux.
Pourtant très rare dans les médias, Neymar est venu en conférence de presse hier, non pas confirmé qu'il prolongeait l'aventure à Paris, mais bien qu'il est prêt à conduire le PSG à la victoire finale avant même de penser au trophée de meilleur joueur du monde.
Le ballon d'or, ce n'est pas vraiment quelque chose qui occupe mes pensées. Moi, je veux gagner la Ligue des champions. Vous savez, je travaille beaucoup, contrairement à ce qui a pu être dit. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour être champion.
Neymar en profite pour répondre aux critiques. Ses déclarations en feront sourire certains, mais pas l'entraîneur de Manchester City. Pep Guardiola connaît les pouvoirs du génie brésilien, lui qui l'a supervisé à l'époque où il entraînait le FC Barcelone, avant que le club catalan le recrute en 2013.
Je me souviens avoir regardé des images de Neymar à l'époque où il jouait à Santos au Brésil. Mon Dieu, quel joueur! Bon, je dois dire que j'ai eu du mal à trouver le sommeil ces dernières nuits, mais c'est un plaisir de jouer le PSG et nous allons tout faire pour les battre.
Un début de revanche pour Guardiola après son élimination en demi-finale avec le Bayern Munich en 2015 face au Barça de Neymar, auteur de 3 buts en 2 matchs.
Un coup d'envoi de la rencontre à 21h et puis hier soir, Karim Benzema a sauvé le Real en inscrivant le but de l'égalisation face à Chelsea, 1-1 et demi-finale retour à Londres dans une semaine.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes. Aujourd'hui, vivre avec un complotiste.